Les Clairvoyants est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 81e épisode des Clairvoyants.
Les Clairvoyants.
Before we get started, does anyone want to get out?
Les Clairvoyants, épisode 81, on se retrouve comme tous les mois sur Geekzone pour un petit point sur l'actu du MCU. On va aussi évidemment faire un focus sur Shang-Chi parce qu'on s'est rendu compte que le film sortait le mois prochain et qu'on n'en avait pas encore parlé. On va faire tout ça avec mes acolytes Fox et Archeon. Salut les gars.
Hello.
Salut tout le monde.
On fera aussi un peu de spéculation. Bien évidemment, on va parler des bandes annonces de Eternals et de Spider-Man No Way Home qui divisent ici au sein de la rédaction des Clairvoyants. Ne le cachons pas, on le verra tout à l'heure. Et puis on parlera donc bien évidemment de Shang-Chi. Je l'ai dit, on écoutera de la musique et on fera un peu le tour du courrier. Alors on aurait dû normalement avoir un invité ce mois-ci, mais bon, c'est un peu compliqué avec les attachés de presse de Disney de réussir à débloquer le truc. Donc si jamais on peut avoir cet invité, qui est en l'occurrence un monsieur qui a bossé sur les deux premiers épisodes de What If, ben on le fera dans une émission spéciale ou le mois prochain. Il n'y a rien qui presse non plus, mais bon voilà, c'était pour vous signaler parce que je sais que j'en avais parlé et que donc je voulais préciser pourquoi ça ne se faisait finalement pas. Et je vous propose qu'on y aille tout de suite et qu'on commence avec les news et notre rubrique True Believers.
God, we haven't caught up in a spell, have we? The Avengers broke up. We're toast.
Broke up? Like a band? Like the Beatles?
True Believers, pas beaucoup de news en provenance du MCU ce mois-ci, c'est très très calme. On vous rappelle que Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings sort le 1er septembre chez nous. On va faire évidemment ce mois-ci un focus sur le personnage et son univers, et puis on débriefera le film le mois prochain. Et on vous rappelle que si vous êtes curieux, il y a plein d'extraits, de clips, de trailers, de featurettes pour le moment sur YouTube. Il y en a quasiment une tous les jours, jusqu'à la sortie à mon avis. Donc il y a de quoi s'en mettre sous la dent en attendant la sortie du film. Donc le 1er septembre, Spider-Man No Way Home, on le disait dans l'intro, il y a eu d'abord un leak et puis finalement le lendemain la sortie du teaser trailer officiel. Alors forcément on va en reparler hein, dans la rubrique Theory Crafting. On rappelle que le film sort le 15 décembre chez nous et donc bah, voilà, on va spéculer un petit peu sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Pareil pour Eternals, on a pu voir le final trailer, donc la dernière bande annonce avant la sortie du film. Là aussi on va en reparler dans la section Theory Crafting. On vous rappelle juste que le film sort le 3 novembre. Et puis on a eu des news du côté de Black Panther Wakanda Forever, donc la suite du premier Black Panther, avec l'arrivée au cast de Michaela Coel, qui apparemment était dans un film ou une série HBO qui s'appelle I May Destroy You, que je n'ai pas vu, donc je n'en dirai pas plus. Et puis tu m'as rappelé, Fox, je l'avais oublié, l'arrivée d'un nouveau personnage dans le MCU, à l'occasion donc de ce Black Panther Wakanda Forever.
Tout à fait, et c'est Archeon qui nous l'a rappelé d'ailleurs. Ah. Et oui, parce que Archeon surveille les news.
Ça m'arrive.
Pendant que j'étais en train de manger avant d'enregistrer, tu vois, et il arrive, hey, il y a Riri qui revient, donc on rappelle Riri Williams, donc Ironheart, qui est donc Iron Man au féminin, sera introduite dans une série Disney+, qui va avoir pendant sa série Disney+, et qui va être introduite donc dans ce Wakanda Forever que j'attends énormément le 8 juillet 2022 aux US.
Ouais, le 6 sans doute chez nous, donc comme ça sort toujours le vendredi aux États-Unis et le mercredi juste avant chez nous. Donc Black Panther, Wakanda Forever, Blade, dont on n'a pas beaucoup de news à trouver visiblement son réalisateur. Il s'agit de Bassam Tariq, qui signe apparemment un film très bien coté sur Rotten Tomatoes qui s'appelle s'appelle Mogul Mowgli, qui raconte, si je dis pas de bêtises, l'histoire d'un musicien qui devient progressivement sourd. Donc comme ça avait pas l'air super joyeux, je me le suis pas enfilé ces derniers temps, c'était plutôt les films drôles et qui permettent de s'évader un petit peu. Donc je regarderai ça plus tard, mais en tout cas, donc voilà, visiblement quelqu'un qui sait tenir une caméra, et c'est toujours donc Mahershala Ali dans le rôle titre. On n'a toujours pas de date pour le moment, j'imagine que ce sera plutôt phase 5, donc pas avant début 2023 à mon avis. Et puis on a enfin une date pour Hawkeye, ça commence le 24 novembre sur Disney+. Vous êtes impatient, vous, pour Hawkeye, ou bof?
Je me dois de représenter la Hawkeye Defense Force à cause d'Archeon et Asmar, donc oui, je défends Hawkeye et je regarderai plaisir.
On verra s'il meurt à la fin.
Moi, je suis surtout impatient de revoir Yelena, du coup, en espérant qu'on la voit pas que dans un épisode. Mais voilà.
Mais c'est vrai que j'attendais la série, mais le final de Black Widow a filé un petit coup de boost d'intérêt en plus, quand même.
Clairement, clairement. Donc, le 24 novembre sur Disney+, et puis une dernière petite info en vitesse. On a appris que le Guardians of the Galaxy Holiday Special, qui pastichera, donc j'imagine, le Star Wars Holiday Special, fera a priori moins de 40 minutes. Voilà. C'est pas une info super importante ou capitale, mais c'est à peu près tout ce qu'on a à se mettre sous la dent pour le moment, et on vous rappelle que ça sort donc normalement en décembre 2022 sur Disney+ aussi. C'est déjà tout pour les news, donc on va passer du coup à notre rubrique critique avec I Love You 3000.
I can footloose the movie.
Exactly like Footloose. Is it still the greatest movie in history?
It never was.
I Love You 3000, c'est notre rubrique critique du dernier film ou de la dernière série du MCU. En ce moment, donc, c'est la série animée What If. On a pu voir les trois premiers épisodes et on va faire une petite critique très rapide. J'ai mis du temps à rentrer dedans, en ce qui me concerne. Je suis vraiment très très fan de l'anime. C'est pas du tout à ce niveau-là que le bas blesse. C'est plutôt que, bon, les deux premières histoires étaient quand même finalement assez similaires à ce qu'on a connu dans le MCU traditionnel avec un twist. Donc voilà, c'était sympa, mais sans plus. J'ai été, en revanche, beaucoup plus intéressé par le dernier épisode qui pour le coup chamboule complètement tout et se permet plus de liberté. Malgré ça, en fait, je continue de me demander, parce qu'on en parlait le mois dernier, on avait cet espoir que peut-être ce soit finalement connecté au reste du MCU d'une certaine manière avec la création de multivers, etc. Et il se trouve que pour le moment c'est pas du tout le cas et ça sera visiblement pas le cas, donc j'ai un peu le sentiment quand même que pas la qualité d'écriture, mais le choix des histoires racontées est finalement pas super intéressant, à partir du moment où c'est complètement décontextualisé du reste. Mais sinon, dans l'ensemble, je veux dire, je passe un bon moment, c'est qu'une demi-heure, donc c'est pas non plus le truc qu'il faut s'enfiler pendant deux heures, donc ça va, ça passe bien, mais j'en attendais sans doute un peu plus. Fox, ton avis?
J'ai adoré le premier, Captain Carter, oui, voilà. Bah hein, oui, bon, oui. Je suis désolé, hein, c'est tous nos faiblesses. Moi, c'est... Ah ouais, non, mais toujours, je les pousse quand elles veulent, elle m'épouse quand elle veut. Normal, avec le bouclier, sans le bouclier, quand elle veut. C'est, non, j'ai trouvé vraiment génial en fait le côté réécriture de voilà, il y a une variable qui change à un moment précis et tout est le bordel. J'ai beaucoup aimé le second épisode, bizarrement, parce que c'est ça en dit énormément sur tu changes Peter Quill contre T'Challa et en fait t'as la paix dans l'univers et t'es là, ah ouais, quand même, c'est pété.
Ouais, puis le deuxième épisode a aussi un côté très émotionnel, évidemment, avec la performance de Chadwick Boseman. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est un chouette moment du MCU, indépendamment de ce que je peux penser de la série animée pour le moment. Cet épisode-là, effectivement, est un petit peu hors du lot, donc voilà, mention spéciale donc à la dernière performance de Chadwick Boseman.
J'ai versé ma petite larme, je vais pas mentir, et j'ai regardé le dernier juste avant d'enregistrer, là, j'ai beaucoup aimé le souci du détail, le fait que bah, tu te retrouves avec chacun qui meurt. J'ai assez vite déroulé le truc de si c'est pas un poison, ça ressemble quand même à un truc qui rentre. On repense à Thanos par le trou de balle, hein, évidemment. Et j'ai trouvé vachement bien l'idée de remettre puis les voix surtout, parce que t'entends Michael Douglas en Pym, en Yellow Jacket pour le coup, qui est le Yellow Jacket classique.
On est sûr que c'est lui, j'ai pas vérifié. Tiens, je sais qu'il y a.
C'est sa voix.
C'est pas Scarlett Johansson en tout cas.
Non, c'est pas Scarlett Johansson.
C'est
pas.
C'est Luke Bell qui reprend le rôle. Il y a deux trois autres persos qui sont.
Il y a Frank Grillo qui a sa voix.
Ouais. Tout à
mais
fait.
C'est bien, j'ai regardé moi à la fin de l'épisode, c'est bien Michael Douglas.
C'est bien Michael Douglas, ok. Ouais. Je voulais juste être sûr qu'on dise pas de bêtises.
J'ai bien aimé l'idée de comment tuer les Earth Mighty Astyros, en fait, par le plus simple dénominateur commun. C'est si Hope Van Dyne avait été recruté par le Shield à ce moment-là, quoi. Et c'est toujours, comme tu disais, des dénominateurs communs très courts.
Thomas, toi, j'ai cru comprendre que le dernier épisode, ça avait pas trop été ta cam, en fait.
Bah, dès le deuxième, en fait. Alors, c'est techniquement, il y a rien à redire. C'est super propre, ça se regarde, c'est grave agréable à l'œil. Le premier épisode, j'avais juste un petit nitpick que je me rappelle que j'avais dit sur Discord du genre la phase dans Thunberg qui était, enfin c'est pas très très grave, mais j'ai vraiment apprécié le premier épisode. Le deuxième aussi, l'histoire de base est vraiment sympa. Ce qui va saouler, c'est les profusions de vannes sur Thanos et son génocide, ou le personnage de Jimon Unsu qui est un fanboy vraiment mais infect, où il y a une vanne toutes les 10 secondes, c'est lourd. C'est vraiment lourd. Alors que ce qui est dommage, c'est que ça fait un contraste avec le reste du message qui est vraiment cool. C'est effectivement, si c'était pas un gamin puant comme Peter Quill qui avait été dans l'espace avec Yondu, ça aurait porté la paix dans l'univers, quoi. Et je trouve le message plutôt bien.
Ouais, ouais,
en
ouais.
Parallèle de l'hommage à Chadwick Boseman.
Pour le coup, c'est assez fortuit, hein, parce qu'il avait déjà enregistré tout ça avant
oui,
qu'on
oui.
le sache de toute façon. Donc, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de coïncidence qui est plutôt sympathique aussi à ce niveau-là.
Donc j'ai quand même, il y a des trucs qui m'ont gonflé, mais j'ai quand même assez apprécié ce deuxième épisode. Le troisième. Par contre, l'histoire où on tue tout le monde, Fury, ça a l'air de vraiment pas le déranger de perdre tout son roster qui s'était foutu sous la main pour essayer de se sauver la Terre. Loki qui débarque en essayant de venger son frère, alors que bon bah techniquement, je sais que c'est un what if, hein, mais si le seul élément perturbateur c'est le recrutement de Bindine par le Shield, il y a zéro intérêt à ce que Loki soit maintenant gentil et défenseur d'Asgard ou je sais pas. Non, je sais pas, moi ce troisième épisode là, alors après c'est vrai que je l'ai vu là juste avant d'enregistrer dans le métro un peu à l'arrache, peut-être pour ça j'ai pas vraiment apprécié, mais l'histoire m'a pas branché plus que ça, quoi.
Moi ce que j'en retire essentiellement, et puis on clôturera là parce que je pense qu'on a fait à peu près le tour, mais c'est que globalement en fait on a un peu l'impression de... Tu sais, c'est comme si t'avais des petites figurines et tu joues et tu te racontes des histoires avec tes petites figurines. C'est cool, c'est chouette, mais est-ce que c'est vraiment très intéressant? Au final, pas tant que ça, en fait. C'est un peu le reproche que j'ai. C'est passer l'effet du, ah, tiens, c'est rigolo, bidule, en fait, dans cet univers-là, il est plutôt comme ça ou plutôt comme ceci. L'histoire qui est racontée par ces épisodes, me semble quand même un poil légère, et je m'attendais sans doute à un petit peu plus de profondeur de ce côté-là. Et effectivement, il y a quelques raccourcis, comme tu disais dans le dernier épisode, qui sont un petit peu décevants. Donc, on va voir comment ça évolue. Encore 6 épisodes, on en reparlera le mois prochain, mais pour le moment, on aime bien, mais on en attendait plus. Je pense que je peux résumer ça comme ça.
C'est un cookie sympa. C'est un voilà. cookie sympa, voilà.
Exactement. I am MODOK. I am science. I am genius. I Am Science, c'est notre focus sur un personnage, une organisation ou un arc des comics. On a bien évidemment décidé de vous parler de Shang-Chi. Le film sort le 1er septembre, donc il est plus que temps. Shang-Chi, c'est apparemment une franchise qu'ils essaient de développer chez Marvel bien avant le lancement du MCU, depuis le début des années 2000. Et puis ils ont eu un petit peu de mal. Et là, visiblement, donc ça y est, ils y sont enfin parvenus. C'est un personnage quand même relativement peu connu des comics, en tout cas dans le grand public. Moi, c'est un personnage que je connaissais absolument pas avant d'en entendre parler, qui a quelques connexions avec un personnage qu'on connaît en fait dans le MCU, mais pas sous sa véritable identité qui est le mandarin. Enfin, on va en reparler tout à l'heure. On va commencer par s'interroger sur d'où il vient, qui l'a créé et depuis quand il existe, mon cher Fox.
Alors, Shang-Chi il existe depuis décembre 1973. Il a été créé par Jim Starlin et Steve Englehart. Il est apparu dans Special Marvel Edition numéro 15, donc dans décembre 1973. Et ça a été, en fait, on est au début des années 70, il y a une grande vague des films de Kung Fu, il y avait Bruce Lee, évidemment, ça cartonnait partout. Et donc Marvel voulait acheter les droits de la série Kung Fu, donc la série avec David Carradine, pour l'adapter en comics. Malheureusement, la série appartenait à la Warner, qui va donc refuser de vendre les droits à Marvel, et eux, ils vont se retourner vers l'œuvre de Sax Rohmer, Dr. Fu Manchu. Donc le personnage de Shang-Chi est une création Marvel. Le gros de l'univers et des personnages qui l'accompagnent dans ses premières aventures viennent quant à eux de l'univers de Rohmer, ce qui provoque quelques retcons plus tard dans les années 2000, quand ils vont perdre les droits d'exploitation de la licence de Fu Manchu, en fait.
Ouais, puis il y a eu un problème aussi de connotation raciste autour du personnage de Fu Manchu,
oui.
qui vont les amener donc à retconner, on va le voir dans les comics, le personnage. Et dans le film Shang-Chi, en fait, c'est carrément encore un autre personnage qui est une création pure du MCU, et on en reparlera ça tout à l'heure très vite dans la section théorique. Alors le personnage de Shang-Chi, il vient d'où et comment est-ce qu'il a fait pour devenir un super-héros?
Alors Shang-Chi, il est né en Chine, dans la province du Henan. Il est le fils, alors dans le comics d'origine, il est le fils de Fu Manchu, et depuis le début des années 2000 et le retcon de Marvel, il est le fils de Zhang Fu, qui est un criminel international, qui a fait un enfant à une femme américaine qui a été sélectionnée sur des critères génétiques.
Sympa.
Un adorable personnage. Mm-hmm. Donc la volonté, on va appeler son père Fu Manchu parce qu'on parle des comics des années 70, ouais, mais la volonté de Fu Manchu est de faire de son fils l'assassin parfait qu'il pourrait envoyer aux quatre coins du monde pour réaliser ses dessins. Il va donc le placer dès son plus jeune âge entre les mains des meilleurs entraîneurs et des maîtres des arts martiaux. Et après 19 ans d'entraînement à huis clos, sans voir le monde rien, le jeune Shang-Chi est devenu un combattant totalement accompli, qui maîtrise le combat à main nue, le combat avec différentes armes, mais également son chi qui lui donne des capacités quasiment surhumaines. Mais il n'a pas de super pouvoir. Ah là, c'est un humain, faut préciser. Il y a des très très grosses capacités, niveau technique, ce qu'on appelle dans le classement Marvel, le technical level, en fait, il est très très haut, mais il n'a pas de pouvoir.
D'accord.
Shang-Chi, il est au courant de rien, donc il connaît aucune des activités de son père, et un jour, son père va l'envoyer à Londres pour assassiner le docteur Petrie, en justifiant que c'est un immense criminel et dont la mort profiterait à l'humanité pour aider l'humanité, en fait. Il va se retrouver sur place, et il va trouver un vieillard qui est déjà alité et proche de la mort. Shang-Chi va s'étonner de voir la cible d'après la description de son père. Bon, il va voir dans quel état il est, c'est un peu bizarre quand même, mais il va le tuer. Et alors qu'il s'apprête à quitter la pièce, il va être mis en joue par un ancien gérant d'un ancien agent des services secrets britanniques qui s'appelle Sir Dennis Nayland Smith, qui a passé toute sa vie, ou du moins une très grande partie de sa vie, à poursuivre Fu Manchu. Il va révéler au jeune Shang-Chi la vraie nature de son père, et là, le jeune assassin va avoir du mal à croire ce qu'il apprend, mais il va retrouver la trace de sa mère et va se rendre chez elle pour la questionner. Quand elle va confirmer ce que disait Nayland Smith, Shang-Chi va jurer de faire tomber l'empire de son père et de le détruire. Il va rejoindre donc Sir Davis Nayland Smith et son équipe pour assister le MI6, donc le système de MI6 contre-espionnage, espionnage et opération spéciale, dédicace à Tom Cruise, et contrer les plans de Fu Manchu, évidemment. C'est là qu'il va faire la connaissance de Lei Kolu, qui est une agente du MI6, donc d'origine sino-britannique, qui va devenir plus tard son love interest.
D'accord, alors c'est visiblement une intrigue similaire à laquelle on va avoir droit dans le film, si on en croit en tout cas les bandes annonces. Mm-hmm. Entraînement, etc., comme tu l'as expliqué, et puis à un moment, prise de conscience que le paternel fait quand même des choses pas très très cool, et donc cette volonté donc d'aller tuer le père, en fait, hein, qui est quand même un grand classique de la littérature. Donc pas de grosse surprise de ce côté-là. On reparlera peut-être du personnage de Lei Kolu, qui n'est pas annoncé au casting, mais j'ai ma petite idée, on en reparlera tout à l'heure dans le Theory Crafting. Et puis donc il y a les Ten Rings. Les Ten Rings, alors on sait que dans le MCU c'est aussi une organisation terroriste, c'est pas le cas dans les comics, hein, où c'est vraiment pour le coup uniquement des anneaux quoi, magiques, on va dire. Enfin, tu vas nous en dire plus, c'est quoi en fait ces anneaux dans les comics, et on va voir que dans le film, ça va être différent parce que ce sont des bracelets, en fait.
Ouais, c'est très très différent. On pourra expliquer un petit peu le concept des anneaux et bracelets après, parce que c'est très chinois comme tromperie. Mais les 10 anneaux sont des anneaux de pouvoir dans les comics, qui sont des anneaux qui ont été trouvés par le mandarin dans la vallée des esprits en Chine. Alors, ils ont très longtemps été considérés comme des artefacts magiques, et en fait, leur origine, elle est tout simplement extraterrestre. Il s'agit de composants d'un vaisseau de la race des McLuhans, dont la technologie dépasse largement la nôtre, évidemment. Et ces êtres à l'aspect de dragon se sont écrasés sur Terre il y a plusieurs siècles, et dans les survivants du crash, un certain, alors là le nom quand même, c'est Fin Fang Foom.
Ah, Fin Fang Foom, c'était un ennemi aussi d'Iron Man, voilà, dans le comics, si je me souviens.
Oui,
bien.
Oui, oui, aussi.
Enfin, on a d'ailleurs cru très longtemps qu'il était dans Avengers, puisqu'il y avait ces espèces de monstres de Thanos, là, qui ressemblaient un peu à des dragons volants, mais finalement, c'était pas le cas.
Et donc, Fin Fang Foom va profiter d'abord de ses pouvoirs de métamorphose pour tenter de soumettre les locaux. Il va alterner ses plans de conquête avec des phases d'hibernation de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'années, pardon. Et les anneaux, en fait, ils vont offrir, chaque anneau possède un pouvoir que le mandarin peut contrôler. Au début, il peut en placer qu'un seul par doigt pour s'en servir. Au fil des années, il va commencer à développer un lien avec ses bijoux technologiques et va pouvoir faire appel à eux, même sur de très longues distances. Ça, on le voit notamment dans les comics de combat entre Iron Man et le mandarin, où en fait le mandarin donne ses anneaux à ses mains, donc main droite et main gauche, qui sont 10 personnes, qui possèdent un anneau chacun. Et quand il en a besoin, il peut faire appel télépathiquement à l'anneau, et l'anneau va sortir de la main de son serviteur pour le rejoindre et donc le renforcer à très très grande vitesse, en fait. Donc il peut aussi choisir qui peut les activer ou non. C'est pour ça qu'il les confie donc à ses plus fidèles lieutenants, qu'on appelle les lieutenants de la main, tout simplement. Il y a donc 10 pouvoirs, 10 doigts, 10 pouvoirs, ça peut être des lasers, enfin du feu slash des lasers, la lévitation, manipulation du sol, donc de la terre, de l'élémentaire.
C'est des espèces de super pierres de l'infini en fait en termes de d'artifice scénaristique, on va dire. En gros, c'est, alors, t'as plein de pouvoirs, tu peux les combiner,
C'est très lié en fait, ce qu'on pourrait appeler de la magie élémentaire en fait, du feu, de l'air, de l'eau, de la terre, de l'électricité, de la lévitation, des pouvoirs assez basiques en fait par rapport aux capacités des pierres de l'infini. Mais liées ensemble, par contre, les bagues, quand elles sont dans les mains du mandarin et qu'il a les 10 bagues sur lui, par contre, elles s'amplifient les unes les autres. Donc c'est quelque chose qui était très intéressant dans les comics. On a pu voir dans le trailer que ce sont donc des anneaux, des gros anneaux, des gros bracelets que le mandarin et Shang-Chi se battent en le mettant autour des bras, en fait.
Je pense que c'est un choix purement visuel, en fait. Ça doit être plus facile, à mon avis, de rendre à l'écran des bracelets que des bagues, en fait.
Alors, oui et non, parce que ça rend très très bien en bracelet, mais dans les armes anciennes chinoises, en fait, il y avait des anneaux qui ressemblent à des chakrams. Donc l'anneau qu'avait Xena, par exemple, tu vois, l'espèce d'anneau qu'elle lançait, ça, on appelle ça un chakram. C'est pas chinois d'origine, mais dans les armes anciennes chinoises, il y a des anneaux comme ça qui sont mécaniques entre guillemets, puisqu'ils peuvent s'ouvrir, s'agrandir ou se resserrer pour être portés comme un bracelet et servir, par exemple, peut lancer comme un frisbee pour découper, ou tu peux les tenir pour t'en servir comme des couteaux. Et donc j'aime bien ce petit côté utiliser des anneaux, parce qu'on le voit dans le trailer, les anneaux sont plus ou moins extensibles aussi. Donc c'est ils ont repris cette arme ancienne entre guillemets pour en faire des nouveaux anneaux de pouvoir, en fait.
Voilà, comme ça vous avez les bases donc pour Shang-Chi. On va évidemment voir ce qu'ils vont faire du personnage du mandarin, hein, puisqu'on sait qu'il y avait eu une grosse polémique à l'époque d'Iron Man 3 avec ce faux mandarin, et puis il y a un court-métrage All Hail the King, un one-shot qui avait rétabli un peu la vérité en disant oui, mais en fait il y a un vrai mandarin, donc on va enfin le rencontrer, voir un peu s'il va avoir une importance au long cours dans le MCU, ce dont je doute, mais on ne sait jamais, ça reste quand même un big bad assez proéminent dans les comics, donc pourquoi pas. Thomas, tu vas nous faire des recommandations de lecture de ton côté pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur le personnage de Shang-Chi. Et on va commencer avec Marvel Knight, c'était une collection, ça, en fait, hein, qui date des années 2000.
Oui, Marvel Knight, c'est ce qu'ils avaient sorti juste quand ils étaient un peu dans la merde financièrement, qui avait été piloté par Quesada, justement. C'est et ça, c'était, ouais, un peu ce qui les avait remis au goût du jour sur les ventes. Ouais, voilà, c'est ça. Mmh. C'est un truc un peu plus sombre, un peu plus adulte. Quand on voit le roster dont on parle dans Marvel Knight, on va vite comprendre pourquoi. Donc, du coup, c'est sorti en 2000. Ça a été écrit par Chuck Dixon, ça a été dessiné par Eduardo Barreto, et c'est le team-up de la finesse, hein, les mecs qui mettent des tatanes à tout vent. Donc on a du Punisher, on a du Dagger, du Black Widow, Daredevil, et pour finir Shang-Chi qui vient achever le tout à coup de low kick dans la gueule. C'est, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un pitch que j'aime bien, dans le sens où à un moment on commençait à avoir des trucs vraiment qui partaient dans le temps, dans l'espace, etc. Tu sens que Marvel s'est recentré en disant on va recentrer le truc terre à terre côté New York, on va voir ce que ça donne un peu. Et c'est ça marque un petit peu aussi le retour de Shang-Chi, qui était toujours à peu près présent dans l'ombre, un peu derrière, on le voyait de temps en temps, mais là au moins on le retrouve sur un team-up avec des persos qui sont à peu près similaires à ce que lui fait, et c'est plutôt agréable à lire, oui.
Puis on va rester au street level avec Heroes for Hire volume 2, ça date de 2006.
C'est ça, c'est en plein Civil War, donc ça a été écrit par Jimmy Palmiotti, ça a été dessiné par Billy Tucci, on est à peu près dans le même genre de pitch, hein, donc là ce coup-ci par contre, comme je disais, c'est pendant Civil War, Colin Wing et Misty Knight reforment les Heroes for Hire, le groupe de Luke Cage et Iron Fist, en fait, où des héros mercenaires, on va dire. Sauf que là, c'est pour traquer ceux qui refusent de signer le fameux Registration Act, donc pour devenir une image publique, en fait, de révéler leur identité en tant que super-héros ou super-vilain. Il n'y a pas de distinction là-dessus. Et donc, du coup, Misty Knight et Colin Wing vont remonter l'équipe et prendre Shang-Chi avec eux.
Et puis, on a Shang-Chi Brothers and Sisters, une série très récente qui, forcément, essaie de coller un petit peu avec l'actu.
Ah oui, là, on est dans du opportuniste 100%. On en avait parlé sur le Discord il n'y a pas longtemps. On a une série Kang qui arrive, c'est pareil. Enfin, à chaque fois, on va pas se mentir, les mecs sont pas cons non plus, hein, c'est une maison d'édition, ça serait dommage de passer à côté. Donc là, ils ont profité en 2020, le film avait déjà été annoncé, et ils ont refait une nouvelle série. Alors, c'est une mini-série de 5 issues, du coup, qui a été écrite par Jin Luan Liang et qui a été dessinée par Dike ou Dike. Je sais pas comment ça se prononce, son prénom. Je crois que c'est Dike, mais je suis pas sûr. Donc Dike Ruan. Et en fait, on va retrouver Shang-Chi qui revient, qui est de nouveau confronté, en fait, à l'organisation de son père. Donc, anciennement Fu Manchu et maintenant Zhang Zhu. Faut suivre aussi, hein. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure sur le focus avec la perte des droits de Saxe Romer, etc. C'est un peu compliqué. Surtout dans le film, ça risque d'être mélangé avec le mandarin. Enfin bref, on y reviendra, je pense. Donc on va le retrouver contre l'ex-organisation de son père. Son père est mort, justement. Et on va avoir une espèce de guerre, d'où le nom de l'arc Brothers and Sisters, une espèce de de guerre de frères et sœurs pour essayer de rétablir un petit peu d'ordre là-dedans.
Et puis tu voulais faire deux mentions supplémentaires, une première pour dire aux gens de pas lire Spider Island. Pourquoi c'est vraiment pourri, je l'ai jamais lu en fait.
C'est de la merde. C'est de la merde. Et j'ai en fouillant, j'avais, c'est vrai que on en parlait tout à l'heure, Shang-Chi c'est un héros qui est assez peu connu au final, qui est quand même présent très très longtemps, mais que pas une grosse image du grand public. Et quand tu regardes, si tu fais un Google Shang-Chi Must Read, je pense que la plupart des trucs genre CBR, Comic Book Resource, etc. vont te balancer du Spider Island, qui est un arc de merde.
Mais pourquoi
ne lisez pas ça? Parce que c'est une histoire bidon. Tu vas retrouver un Shang-Chi avec six bras, avec des pouvoirs un peu chelous d'araignée, parce qu'il va se faire, comment ça s'appelle, inoculer un virus, le virus Spider. Enfin, c'est vraiment.
Ok, d'accord. Non. Puis tu voulais faire une mention aussi spéciale pour les riches.
Voilà, là c'est pour les nantis, pour les mecs qui veulent de la collection lourde et qui pèse. Si vraiment Shang-Chi et le Kung-Fu en général est un univers qui vous intéresse et vous avez envie de collectionner ça, je crois que c'est en 2015-2016, Marvel a profité de la générosité des ayants droit de Sax Rohmer pour republier en fait donc les histoires de Shang-Chi. Et en fait ils en ont fait, ça c'est vraiment une super idée, ils en ont fait un omnibus qui s'appelle Deadly Ends of Kung-Fu, qui en fait regroupe les histoires de Deadly Ends et aussi les histoires de Masters of Kung Fu, la série dans laquelle était présent Shang-Chi. C'est Hunter the Dragon sur un omnibus de 1000 pages, quoi. Ça va du Kung Fu non-stop. On va trouver du Iron Fist, du Shang-Chi, etc. Ça coûte 100 balles à peu près. C'est trouvable que sur Amazon US, je pense. Donc prévoyez les frais de port. Et je le préviens maintenant parce que je sais que ça avait choqué pas mal de monde quand ils l'ont reçu. L'intérieur en noir et blanc. C'est pas des pages en couleur. C'est sur les 1000 pages, je pense qu'il doit y avoir moins de 30 pages en couleur, à mon avis. Mais ça reste un bel objet quand même, je pense. Bon, si vous aimez le genre, en tout cas, ça reste un bel objet.
Bon, et bien merci les gars pour ce focus et ces recommandations, et on va faire une petite pause musicale.
Jarvis, drop my needle.
Jarvis, Drop My Needle, c'est notre pause musicale tirée du MCU. On aurait bien voulu vous faire écouter la bande-son de What If, mais elle n'est pas sortie encore, donc ce sera pour le mois prochain. Du coup, on va se rabattre sur la bande-son du film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, avec ce morceau chanté et rappé de DJ Snake, Rick Ross et Rich Brian, qui s'intitule Run It.
And them follows, but you're too tame. I ain't from the south, but I appreciate the wood grain. Never calling me about the noise, it's only two, man. I'm in the same building, but the flows and view change. I ain't for the waiting now. I bought a Rari and I did it just to hit a sign. Drive safe, really about to lose all its meaning now. Guess you love the trouble when I pull up and you leaving town. Say you're married to the game and I'm just here to burn the gown. I got a flight in the morning, I see what you've been trying to do. And I'm a mission to border. You think I never pay attention in my mind, I'm recording. I'm about to win and ruin all your goals and dreams out of boredom. Riding around with homies like we run the city. Looking fresh and feeling like a millie. Money. Moving silence, you can never hear me. Coming. If you got a problem when you see me, run it.
Talking, making major moves. Rolls Royce, no top. Me, no one will ever stop me. Me against the world, I got my back against the wall. Oh, know I'm hellbound. Oh, but I'm well now. Oh, on the road to riches, I can never lay around. Oh, so don't make a sound unless you make it loud. Everybody scream, everybody scream, everybody scream. That's my only thing. Yes, I'm a born winner, a Jordan 23. Woo! All my people G's until the party cease. Run it. We'll be right back.
Run It à l'instant, c'était DJ Snake, Rick Ross et Rich Brian sur la bande-son de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.
Moving forward in time to view alternate futures, to see all the possible outcomes of the coming conflict.
How many did you see?
14,605.
How many did we win?
One.
Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre rubrique récap, théorie crafting et spéculation. On va attaquer et on va passer en vitesse sur Shang-Chi. Comme vous avez pu vous en rendre compte dans le focus, c'est un personnage qui finalement a une histoire quand même assez classique, voire banale, de conflits paternels sur fond criminel avec des super pouvoirs. Donc il n'a pas une histoire particulièrement innovante à ce niveau-là. Du coup, bah ça nous laisse quand même peu de choses à spéculer concernant le MCU, d'autant plus que le film a l'air quand même assez détaché. Alors oui, on voit dans le trailer la présence de Wong et de Abomination, c'est à peu près la seule connexion qu'on a avec le MCU pour le moment. Donc je sais pas si vous voyez des choses supplémentaire, il y a effectivement peut-être cette connexion avec le faux mandarin dans Iron Man 3, et qui sait, ça pourrait être intéressant de revoir Trevor Slattery et de le voir confronté au mandarin, voir ce qui s'est passé pour lui à l'issue donc du court-métrage All Hail the King. Mm-hmm. Mais sinon, en dehors de ça, la version du mandarin du MCU est un nouveau personnage, donc comme on le disait tout à l'heure, hein, qui s'appelle Wenwu. Il y a la présence d'un autre personnage des comics, mais qui a l'air d'être un personnage assez mineur, qui est Razor Fist. Et puis donc on a ce personnage de Katie, qui est incarné par Okwifana, qui est donc cette espèce de sidekick un peu rigolo, qui pourrait être donc le personnage du MI6 dont on parlait dans le focus. Mais sinon, en dehors de ça, je vois pas trop de choses sur lesquelles spéculer, à moins que vous ayez d'autres idées.
Moi, le seul lien que je vois, c'est par rapport au comics où... alors, Wenwu, je sais pas si c'est pour faire lien avec le changement de nom de Fu Manchu, qui est devenu... la prononciation en chinois, je suis désolé, mais je l'ai vraiment pas. Zhengzhou, je sais pas si c'est la même chose avec la bonne prononciation, du coup.
Ah, c'est possible, ouais.
Enfin, du coup, je pense qu'à mon avis, ils ont fait la même chose que ce qu'ils ont fait en 2015 avec l'Arc Secret Wars, où ils ont fusionné les deux persos, donc Wenwu et le mandarin, pour un peu simplifier la chose. Et s'ils ont fait ça, je pense que c'est une très bonne idée. Et ça ferait un peu le lien direct avec Iron Man, du coup. Mais je suis pas persuadé qu'il y ait besoin de lien avec d'autres licences.
Ah, moi non plus,
pour l'instant.
C'était juste dans le cadre de la spéculation. Forcément, si on n'a pas, c'est beaucoup moins intéressant d'en faire.
Ce qui serait très marrant, c'est qu'il fasse revenir Samuel Rockwell, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom.
Hammer,
oui.
Justin Hammer.
Grâce à ça,
ça pourrait être rigolo, effectivement.
Ça me ferait marrer.
Bon, sinon, Razor Fist, voilà, c'est pas un perso qui a l'air super important. Je sais qu'il y a une connexion avec Doctor Doom, mais bon, j'y verrai pas grand chose pour spéculer à côté MCU, mais
je pense qu'il est juste là pour mettre des nions.
C'est quand même un bon gros trou de balle de henchman, Razor Fist.
C'est quand même le pire nom pour un Razor
en plus, ouais. Bref, je pense qu'on a fait le tour pour Shang-Chi. On va passer au gros morceau, les trailers donc d'Eternals et de Spider-Man No Way Home. Alors, petite anecdote par rapport au trailer, hein, je sais que vous avez tous été apparemment très surpris de voir qu'on sortait un épisode des Clairvoyants après un trailer. Il se trouve que normalement on aurait dû le faire la semaine dernière, l'épisode des Clairvoyants, et puis nos plannings ne l'ont pas permis, donc on a décidé de reporter. Mais sinon, on aurait été dans la mouise comme d'habitude.
Remerciez mon déménagement le 18, parce que sinon on enregistrait ce jour-là et tout tombait le lendemain.
Fais croire que c'était prévu.
Ouais. Non, mais Kevin, il nous écoute. Tu as vu la tasse, au For Fuck's Sake de Doctor Strange, il nous écoute.
Ouais, ça m'a fait marrer. On en parlera après, ça m'a fait marrer.
Alors, parlons d'abord du trailer d'Eternals. Qu'est-ce qu'on peut en retirer? Déjà, on se posait la question, enfin, non, en vérité, je me posais la question parce que vous étiez plutôt d'avis que ça allait être assez détaché. Mais je me demandais encore le mois dernier s'il y aurait pas des connexions avec le reste et notamment avec le multivers. Il se trouve que apparemment pas. Donc, la justification qui est donnée dans le trailer, c'est que donc le retour de tous les gens qui avaient été snappés par Thanos a provoqué une décharge d'énergie ou que sais-je, qui a donc déclenché ce qu'ils appellent l'émergence. Et donc l'émergence, apparemment, ça n'a pas l'équivalent dans les comics, en tout cas pas sous ce nom-là, mais si j'ai bien compris, il s'agirait donc du retour des déviants qui sont en quelque sorte les ennemis jurés des Eternals dans les comics. Est-ce que ça vous a laissé cette impression-là aussi, ou est-ce que vous avez une autre piste?
Ah non, c'est ça. C'est ça, en fait. La décharge d'énergie de l'anti-snap de Stark a fait que... Parce que l'anti-snap a été fait sur Terre aussi, donc ça a fait se réveiller apparemment des déviants qui était soit mort, soit peut-être en sommeil dans la croûte terrestre, on sait pas trop.
Je sais pas encore si c'est le retour des déviants, si c'est pas tout simplement le retour des célestials en fait.
Peut-être.
Ça parle aussi des célestials, mais il parle des déviants aussi.
Les célestials, mais... ça va être compliqué d'en parler sans avoir fait le focus. On le fera dans les mois qui viennent, mais en gros, c'est des espèces de super entités au-dessus de tout en fait, et qui, enfin, jusqu'à un certain niveau, parce que dans les comics, il y a à chaque fois un niveau supérieur qui apparaît quelques années plus tard. Mais disons qu'à un moment donné, les Celestials, c'était un peu les espèces d'entités suprêmes qui décidaient du sort de l'entièreté de l'univers, en fait.
C'est le niveau max.
C'est pas le niveau max. Il y a largement au-dessus pour les sécher.
Ou maintenant.
Mais même avant. On en parlait sur le Discord, mais Galactus en a séché un ou deux assez facilement.
Oui, c'est pas.
Mais même en dehors de caste de pouvoir, les Celestials, c'est une race extraterrestre qui est très ancienne. Et faut les voir un peu comme des, principalement des espèces de scientifiques de l'espace. Alors, un peu, certains aiment se mettre sur la gueule, mais principalement des espèces de scientifiques de l'espace. Et c'est leurs différentes expériences, en fait, qu'ont créé les déviants, qu'ont créé plus tard les inhumains. C'est eux les responsables aussi de l'apparition du gène X, par exemple, sur les humains supérieurs pour les mutants.
Ouais.
Donc, c'est leur rôle principal dans l'univers, en tout cas, c'est principalement de foutre la grouille dans l'évolution d'autres espèces sur d'autres planètes, en fait.
Alors, on les voit dans les trailers, enfin, on en voit un dans le trailer, qui est Essen. Enfin, moi, je pense que c'est Essen. Il y a des gens qui ont avancé d'autres noms, mais je pense que c'est...
On en voit deux, en fait.
Ah, on en voit deux, j'en ai pas vu.
On en voit deux. On voit donc Essen, le rouge avec les six yeux sur la façade.
Mm-hmm. Qui a l'air mal en point.
Qui a l'air très mal en point. Et on en voit un autre plus tard on a l'impression qu'il est en train de faire tourbillonner des galaxies, les vers gigantesques.
Ah, exact.
Et j'ai pas son nom à lui. Alors,
c'est pas le Tinker.
C'est Arishem, non?
Ben, je sais pas. C'est vrai que les avoir sur la couleur, il y en a, je pense que c'est Germia, mais je suis pas sûr.
Ok. On fera de toute façon un focus bientôt sur les Celestials, parce que c'est vrai que sinon vous n'allez pas comprendre grand chose à ce qu'on raconte ici. Mais disons que bon, voilà, globalement, donc la trame du film, ça va être Eternals contre Deviants, avec en trame de fond potentiellement donc le retour des Celestials, qui ont l'air, comme on l'a vu, donc en tout cas, Essen a l'air plutôt mal en point, donc il a dû se passer un truc. Il a dû y avoir un souci de ce côté-là, donc on le saura en voyant le film, et à mon avis pas avant, en tout cas pas dans les trailers. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce trailer des Eternals? Encore une fois, bon, on vous fera un focus sur les différents personnages qui composent le groupe. On va avoir une sorte d'Avenger, mais à un niveau super Uber. Voilà, c'est des entités cosmiques qui vivent depuis des millénaires, donc il va y avoir une notion de grandeur qu'on n'avait pas sur des franchises comme Avengers, même si sur les dernières ça a quand même été assez loin. Mais il y a visiblement le même genre de dynamique avec chaque personnage qui a des personnalités assez marquées, des petites veines qui fusent à gauche à droite. Et puis alors il y a un relationnel particulier entre le personnage incarné par Angelina Jolie, Tena, qui est donc elle a visiblement un relationnel avec un déviant qui s'appelle Cro, et qui est donc cette espèce d'entité qu'on voit à un moment qui la manipule visiblement. Donc elle a un relationnel que moi je connais pas très bien dans les comics avec ce personnage là. Est-ce que c'est quelque chose qui suscite un antagonisme? Est-ce qu'il y a un côté un peu c'est la traître du groupe, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose de plus complexe par rapport à son relationnel avec Cro?
Le truc avec tout ce qui est Eternal, Déviant et Celestial, c'est que ça s'étale sur là, le film part de 7000 ans, mais c'est un peu plus long dans les comics. Et donc, du coup, ça permet d'avoir du relationnel entre les personnages un peu...
complexe.
C'est pas noir ou blanc, quoi. Il y a des zones de gris entre les deux. Et je sais que Tena et Cro, par exemple, c'est des relations on-off, un peu. Des fois, ils sont ensemble, des fois, non. Des fois, ils sont ennemis, des fois, non. C'est un peu bizarre. Mais il y a un passif entre les deux, ouais.
Ça peut être intéressant, ça, justement, d'avoir, pour une fois, un relationnel un peu... Enfin, on a souvent eu des bad guys qui émanaient, en fait, du héros, hein. C'était souvent des versions un peu miroir du héros, mais d'avoir ici un relationnel comme ça sur la longueur entre une membre des protagonistes et quelqu'un qui fait partie du groupe des antagonistes, ça peut être assez intéressant.
Bah, surtout que là, on parle souvent des déviants, surtout Cro, qui est souvent vendu comme un espèce de warlord, un mercenaire de guerre, un mec qui vraiment tabasse tout ce qui bouge. Et comme je disais, le fait que ça soit étalé sur... lui, il est immortel, c'est pour ça que ça peut s'étaler sur très longtemps. Et en fait, on peut les voir plutôt, je pense, la meilleure façon de décrire leur relationnel, c'est que c'est les deux leaders de deux espèces qui cherchent à, surtout les déviants, qui cherchent à justifier leur place sur une planète qui à la base n'est pas la leur, et face à des créatures qui les ont créées sans qu'on leur demande rien, quoi. Enfin, c'est parce qu'il faut pas oublier qu'on a quand même les Celestials au-dessus, qui sont quand même les espèces de Manitou, les mecs qui ont
les arbitres,
le Bronx. Ouais, c'est ça, des arbitres et des créateurs en plus, dont les Celestials répondent. On les voit, hein, sur le trailer, ils ont une espèce de d'une espèce d'hologramme de Celestial qui a, à qui apparemment ils sont en train de parler. Donc c'est quand même, ils sont encore actifs dans le dans la liaison entre les deux. Mais c'est vrai qu'il faut pas oublier cette cette notion en fait que les déviants sont ni fondamentalement méchants ni fondamentalement gentils. C'est juste, on les a foutus sur une planète il y a 100 000 ans et maintenant faut qu'ils fassent leur vie, il faut qu'ils se justifient, il faut qu'ils trouvent leur place, etc. Et c'est ça que j'aime beaucoup et je pense que j'espère que c'est ça qu'on va voir dans le film.
Mmh. Ouais, c'est fort probable, hein. Chloé Zhao, qui est la réalisatrice, a réalisé jusqu'ici quand même des films qui sont des films très humains, très empathiques. Donc je suis vraiment très impatient de découvrir un peu ce côté justement complexe du relationnel de ces de cette nouvelle formation, enfin de ce nouveau groupe, et puis l'apparition d'entités quand même cosmiques assez maus comme les Celestials. Moi ça me fait kiffer quoi. Enfin, je suis curieux de voir. J'espère que ce sera pas juste un fil rouge en trame de fond et que c'est quelque chose qui va avoir un impact sur le reste du MCU. Alors, on en parlait justement tout à l'heure de cet impact. Tu parlais du gène X. Ça pourrait être une manière d'introduire la notion dans le MCU. On finira de toute façon par y arriver aux mutants, mais c'est vrai que du coup, on commence à chercher peut-être un peu des pistes parce qu'on se dit que la meilleure manière de les introduire, c'est de le faire vraiment très progressivement, de manière très naturelle, et pas tout de suite avec des personnages en tant que tels, mais avec des concepts. Et l'idée de pouvoir introduire ce genre de concept, les Inhumans aussi, ça peut être une très bonne porte d'entrée pour les faire arriver. On sait qu'il y a Miss Marvel qui devrait normalement sortir à la fin de l'année, donc il va falloir un moment qu'on jette les bases aussi pour les Inhumans. Donc il y a plein de pistes possibles. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va être concrètement amorcé dans le film, ou bien on va plutôt se concentrer sur l'histoire de cette famille, enfin j'appelle ça une famille, mais de ce groupe d'Eternals et de leur lutte contre les déviants, et on laissera les concepts pour plus tard.
On en parlait le mois dernier, mais moi je suis là avec le trailer en plus, je suis de plus en plus convaincu que c'est la porte d'entrée pour les Inhumans. Ouais. Tu peux pas placer tout ce qui est déviants, Celestials, en plus de ça on voit un plan dans le trailer, je pense pas que ce soit les cristaux de Terrigène, mais c'est vachement l'explosion, gros truc vert, voilà. Ouais. Ouais.
C'est un peu, ça fait penser quand même un peu à la Terrigène Bomb, qui était une des versions de l'apparition des Inhumans. Dans les comics, une bombe qui explose à New York, je crois, c'est ça, et qui c'est répand ça. Donc du Terrigen Mist et qui donc révèle les Inhumans de New York. Donc pourquoi pas.
Moi, en tout cas, là, de ce qu'on voit sur le trailer et de ce qu'on avait commencé à spéculer le mois dernier, je suis de plus en plus convaincu que oui, c'est la porte d'entrée pour Miss Marvel. Elle va se faire là. Pour les Inhumans, en tout cas, elle va se faire là. Les mutants, j'y crois pas encore.
Non, mais cela dit, tu jettes les bases avec les Inhumans et puis après les mutants, le concept est déjà plus ou moins établi. Il suffit de dire que c'est pas tout à fait la même chose. Peut-être qui sait que le MCU va aller vers une espèce de fusion des concepts, ça pourrait être intéressant. C'est très casse-gueule parce qu'il y a quand même tout un héritage historique autour du nom X-Men, autour du nom mutant dans l'univers Marvel, donc je sais pas trop comment ils vont gérer ça, mais ça pourrait être intéressant.
S'il y a un risque à pas prendre avec la fanbase, c'est de, c'est de mettre des mecs comme Wolverine et Cyclope sans utiliser le mot X-Men ou mutant.
X-Men, ça tu peux le garder, mais mutant en revanche, effectivement, peut-être qu'il va y avoir une confusion
ça
avec les
Inhumans. Ça fait tellement longtemps que les fans le demandent, tu peux pas leur dire hey, vous avez Wolverine, mais interdit de l'appeler mutant.
Fox, autre chose à dire sur ce trailer hein.
Ben moi, de ce que je vois dans la construction, c'est le premier truc qui m'a choqué. Bon après, c'est normal. On utilise le terme de déviant. On rappelle, Thanos est atteint du syndrome du déviant.
Dans les comics,
c'est un Eternal. Dans les comics,
pas confirmé que ce soit le cas dans.
C'est ça.
Dans le film, et j'ai même l'impression d'avoir lu, mais alors je le dis avec des pincettes parce que je sais plus si c'était quelqu'un qui spéculait ou si c'était effectivement une interview de quelqu'un lié à la prod. Mais j'ai l'impression qu'apparemment ils ont décidé de pas le lier aux déviants dans le MCU.
C'est ça.
Mais,
c'est ça.
Sous réserve.
Du moins, actuellement, il est pas lié du tout. Mm-hmm. Donc j'ai été très étonné en voyant le trailer de voir que il a snappé tout le monde et qu'ils sont pas intervenus. Et que c'est le retour des 3 milliards et demi de gens sur Terre qui va les faire agir, parce qu'en fait l'énergie déployée par le blip, donc comme ils appellent, peut détruire la Terre, parce qu'on voit carrément la Terre se soulever, des raz de marée et le reste.
C'est ce qu'on laisse entendre, mais on sait pas si c'est le résultat de ce qu'ils appellent l'émergence. On sait pas si ça va être la destruction de la Terre ou autre chose. Peut-être qu'ils veulent empêcher qu'on révèle les Inhumans, ou enfin tu vois, je sais pas, il peut y avoir aussi comme disait tout à l'heure Thomas, on est dans un truc, une zone d'ombre où c'est ni vraiment noir ni vraiment blanc. Il se peut que les héros aient des motivations.
J'ai largement plus l'impression, sur ce qu'on a vu en trailer, j'ai largement plus l'impression que c'est une vraie catastrophe écologique et la planète qui rejette quelque chose. Okay. Et donc oui, avec les déviants. Après, je reste encore circonspect sur le rôle de notre Black Knight, parce que ça reste un Avengers que j'aime beaucoup. Et pour le jusque là, Kit Harington, il fait tapisserie, quoi. quoi. C'est...
Il a l'air d'être là en espèce d'observateur, en fait, et d'analyste. En fait, on, chaque fois qu'on le voit parler, il demande des explications. Il est, j'ai un peu peur qu'il serve surtout à faire de l'exposition en ayant un personnage extérieur qui soit suffisamment à niveau, en fait, avec les Eternals que pour pouvoir discuter avec eux et qui, en même temps, n'ait pas la connaissance suffisante et donc serve de... Je pense que ça va plutôt être un artifice scénaristique. Ouais.
Je vais vous prévenir maintenant, mais c'est vrai que Black Knight, moi, c'est l'interrogation la plus grosse du trailer. Depuis le début, je me demande qu'est-ce qu'il fout là. Et j'ai commencé à prendre le, réflexe à l'appeler Basil Exposition. Je sais pas si vous avez vu. Je sais pas si vous avez vu Austin Powers avec ce perso qui s'appelle Basil Exposition et qui sert justement à faire de l'exposition.
C'est ça.
Je crois que c'est ça, ouais.
Et quand il approche, t'as le bandeau qui clignote et marqué Exposure de son bas.
Bon, après, peut-être qu'on se trompe, qu'il lui réserve un rôle beaucoup plus conséquent et qu'ils veulent pas le dévoiler dans le trailer. Mais c'est vrai que quand on le voit dans le trailer, c'est à chaque fois, il pose des questions et on lui donne des informations pour lui expliquer ce qui est en train de se passer. C'est quand même très cliché, Exposition Man, quoi, effectivement.
C'est très parle un enfant de 5 ans, en fait.
Donc rien d'autre à dire sur Eternals. Je pense qu'on peut passer au gros morceau. Alors dans ce cas-là, le fameux trailer de Spider-Man No Way Home. Alors on l'attendait depuis un petit moment déjà ce trailer. Il a leaké, donc si je dis pas de bêtises, dans la nuit de dimanche à lundi, dans une version vraiment pas du tout regardable et avec des effets spéciaux qui n'étaient pas finis. Donc visiblement une version très très ancienne du trailer qui, comme par hasard, a popé la veille de la sortie officielle. Je commence vraiment à penser que Sony a pris les petits papiers de Disney et fait de la communication guérilla en mode on balance des faux leaks, etc. Bref, le trailer est sorti pour de bon dans la nuit de lundi à mardi, si je dis pas de bêtises. Un trailer qui ouvre beaucoup de perspectives et qui pose beaucoup de questions aussi. Alors, moi, la première question que je me suis posée en voyant ce trailer, c'est qu'est-ce qui se passe avec Stephen Strange ? Parce que, alors, je suis sûr que c'est voulu, je suis sûr qu'il nous manque soit une partie de contexte, enfin, qu'il nous manque de toute façon du contexte pour comprendre pourquoi, mais j'ai l'impression quand même qu'il est assez facilement convaincu. Bon, il faut que le trailer avance aussi, on a que 2 minutes pour présenter les trucs, donc je me doute qu'il a dû se passer autre chose qui soit a amené Strange à revoir sa copie, à changer d'avis, soit tout simplement c'est pas Strange, ou en tout cas pas au moment où le sort est mis en place. Ça pourrait être le retour d'Agatha, notre chère Agatha Harkness. Il y a plein de possibilités, donc moi c'est cette première chose qui m'a surpris dans le trailer, c'est un peu l'attitude de Strange. Ça vous a frappé aussi ou...
Il est en pleine déprime, mec.
Il a l'air un petit peu, oui, c'est ça,
en survêt. Il est en pleine déprime, il est en survêt. Ben, Flutter Snatch, il a pris du poids en plus, ce qui lui va pas mal parce qu'il était un peu trop maigre, il fallait qu'il mange.
Il est en survêt parce que c'est le blizzard dans son salon.
C'est ça.
Non, mais il a un mug, il en a rien à foutre, surtout. Écoute, il a l'air complètement en déprime parce qu'il a tué Tony Stark et je suis même pas sûr que l'œil d'Agamotto il l'utilise encore, ou du moins j'avais pas l'impression qu'il est autour du cou dans le trailer non plus.
On le voit quand il fait le kaléidoscope avec les trains et il est autour du cou.
Mais au début il a l'air stone ouf, donc
il y a effectivement une interrogation autour de Strange qui a pas l'air tout à fait droit dans ses bottes, donc on en saura sans doute plus peut-être déjà avec le prochain trailer, et sinon on attendra le film comme tout le monde. Bon, forcément il y a évidemment pas que ça dans le trailer, je rassure tout de suite. Il y a toute cette partie qui rappelle un arc dans les comics, qui n'est pas un arc particulièrement populaire, si j'ai bien compris, qui est un arc donc dans lequel Peter demande à ce que on fasse oublier aux gens qu'il est Spider-Man dans la vraie vie, et où ça se passe pas très très bien. C'est plutôt déprimant et c'est plutôt pas très intéressant, si j'ai bien compris. C'est quoi le nom de l'arc déjà ?
Alors cet arc s'appelle One More Day. C'est un arc qui a été sorti en 2007 par cet enculé de Joe Quesada. Putain de merde. Donc il se passe des trucs. Peter, sa vie c'est de la merde, machin. Tante May meurt, va mourir. Et Tante May meurt. Et c'est cet enfoiré de Mephisto se pointe et il fait hey, si tu veux, je peux ressusciter Tante May.
C'est Mephisto, voilà.
Et il lui fait d'accord. Bah du coup, par contre, je vais effacer 25 ans de comics parce que moi, Joe Quesada, je déteste Todd McFarlane et je suis un gros faible.
Bon, alors, je voulais en parler parce que c'est évidemment un truc qui a circulé beaucoup, dont on a beaucoup parlé depuis la sortie du trailer, c'est de ce fameux arc des comics qui est vraiment pas du tout un arc apprécié et a priori à juste titre. Moi, je pense que ça va surtout servir de setup en fait au film. Il faut pouvoir mettre, comme on n'a pas cette notion d'identité cachée vraiment qui a été exploitée dans le MCU, il faut pouvoir mettre, et on a plus sur surtout le l'environnement de Civil War, il va falloir mettre Peter Parker dans cette posture de maintenant qu'on connaît ton identité et qu'en plus t'es considéré comme un criminel, qu'est-ce que tu vas faire? Et donc il y a cette option effectivement d'aller voir Strange qui n'a pas l'air tout à fait net et qui lui propose donc de faire ce sort de pour effacer de la mémoire des gens le fait qu'il est Spider-Man, qui se passe mal et qui quoi visiblement du coup ouvre des portes sur le multivers. Est-ce que ça serait malgré tout lié à Loki dans le sens où c'est ce qui fait déconner le sort en fait, c'est l'existence de multivers et donc le fait que Strange essaye de réécrire la réalité ouvre un portail vers une réalité alternative où cette situation se serait produite. Enfin, j'essaie
de comprendre. Je pense que c'est synchro. Tout est toujours synchro au moment où le multivers s'ouvre, donc au moment où Kang est en train de parler, donc He Will Remains, au moment où en même temps Scarlet Witch découvre ses super pouvoirs, ses vrais pouvoirs et affronte Agatha, et le moment où Strange a son sort qui pète, c'est au moment où les timelines se séparent. Et étant donné qu'il a pas l'air vraiment très frais et totalement en état pour contrôler le sort, pour ça que Wong lui dit fais pas ça d'ailleurs, c'est au moment où tout pète et je pense que, alors je vais être très méchant et c'est peut-être une prédiction un peu sale, mais je pense que les Spidey fans, les Spidey sexuels là, on va leur faire un énorme biscuit de fanservice en mode, hey, pour un épisode on ouvre le multiverse, on va vous chercher les deux autres clampins d'il y a 20 ans, il y a Sam Raimi à la réalisation, on a fait revenir Alfred Molina, on l'a même rajeuni, il y a Jonah Jameson, c'est trop bien, regardez, c'est du fan service. Il va y avoir une aventure super, ça sera pas au niveau de Spider-Verse, on est d'accord, hein, mais ça va être ça pendant un épisode. À la fin, Strange va récupérer plus ou moins, Spidey va peut-être remettre Strange sur le droit chemin ou un truc comme ça, ça va se fermer et on n'aura pas de changement. J'ai très peur que ce film n'ait quasiment aucune incidence, mis à part nous parler du multiverse et de Multiverse of Madness après.
Alors moi, j'ai un avis un peu différent, je vais faire une prévision un peu fofolle, mais c'est un peu aussi le but de cette rubrique. Moi, je vois bien l'histoire se dérouler de la manière suivante, c'est-à-dire que je serais pas étonné qu'après avoir plaisanté sur le sujet pendant des semaines, on voit enfin arriver de Mephisto. Je serais pas étonné que Mephisto joue le même rôle que dans les comics, finalement, sous l'apparence de Doctor Strange, parce que, bah voilà, il faut donner un peu de red herring aux fans, et qu'en fait, à la conclusion du film Spider-Man, ce soit en fait une ouverture aussi vers Doctor Strange, qui soit va devoir récupérer son identité qui a été subtilisée par Mephisto, soit va devoir partir à la recherche de Mephisto qui s'est barré dans le multivers, soit devoir aller chercher Wanda qui est allée chercher Mephisto pour récupérer ses gamins. Je pense qu'il y a, c'est le bon moment de l'introduire de manière un petit peu sournoise en espèce de backdoor pilote, tu vois, mais pour Doctor Strange 2.
Ah, j'ai tellement pas envie, putain.
Ben pourquoi pas, ça peut être, si c'est bien géré, ça peut être très intéressant et ça expliquerait en même temps l'attitude un peu étrange de Strange qui a pas l'air d'être du tout le même entre le moment où il accueille Peter Parker, où il a l'air très sobre, ouais, très en maîtrise de lui, et où quand tu le vois plus tard dire à Wong non t'inquiète, je vais pas faire le sort, wink wink, il a l'air assez différent en fait, donc c'est pas du tout au même moment en tout cas, et à mon avis je pense que c'est pas le même personnage en fait, enfin je sais pas,
c'est peut-être le, que c'est pire, un peu le trop pire, foufou, c'est... mais non, mais le pire ça, je trouve que ton idée est cohérente, hein, mais ça me ferait tellement mal à la bite que Quesada pendant des années fait, hey, regardez mon idée, elle était trop bien en fait, j'avais raison de faire One More Day, je vais le fumer.
Bah, oui et non, parce qu'en fait ça c'est juste le premier acte en gros, hein. Après, non, mais... après Mephisto tu le dégages, c'est pas le big bad du film, les big bad ils arrivent du multivers avec donc voilà. Bah là on l'a vu, Green Goblin, Docteur Octopus, on aura probablement, moi je les ai pas vus dans le trailer mais il y a des gens qui disent les avoir vus, Sandman, Lizard, il y a toujours Vulture qui est potentiellement dans les parages,
il y a Vulture. Et il y a, comment il s'appelle, Jamie Foxx,
Jamie Foxx aussi, Electro, il y a des éclairs Electro, à un moment dans le trailer. Il avait été confirmé au casting, donc visiblement, c'est cette direction-là qu'ils prennent. Ça pourrait être effectivement une idée intéressante d'introduire dans le premier acte le concept, alors que ce soit Mephisto ou un mix entre Mephisto Nightmare, etc., on en a déjà parlé plein de fois, mais et qui prend la place de Strange, qui fait que le sort déconne, qui provoque cette ouverture du multivers, et donc qui confronte dès lors Spider-Man à des Big Bad qui sont des Big Bad historiques, et qui se terminerait comme moi je le pense toujours, et ça fait des mois que j'en parle, mais j'en remets une couche, sur le fait que Spider-Man, Peter Parker, celui qu'on connaît dans le MCU, se retrouve en fait exclu du MCU, expulsé du MCU dans une réalité alternative qui serait reprise en main par Sony, qui serait intégrée dans son Spider-Verse avec Venom, Morbius, etc., qui ferait sa tambouille dans son coin. Et pour nous, ben, on aura une ouverture en fait vers le début de Doctor Strange, avec éventuellement l'introduction d'un personnage ou d'une entité un peu similaire à Mephisto. costaud, qui permettrait d'être le déclencheur, en fait, voir le bad guy de Doctor Strange 2. Alors, je voudrais, parce que là, ça fait un moment que je tiens le crachoir, je voudrais passer la parole à Thomas, qui, pour le coup, lui, a pas du tout été convaincu par le trailer, et j'aimerais qu'on en discute, justement, voir sur quel point le trailer t'a vraiment fâché.
Ouais, alors juste, revenir rapidement sur Mephisto, je suis assez d'accord avec toi là-dessus, hein. Je sais pas si c'est textuellement Mephisto qu'on verra, mais c'est vrai que le comportement de Strange est bizarre, et voir si c'est parce qu'il est possédé ou pas. Alors je pense que c'est purement en termes de comportement, de façon de parler, etc., qu'on peut le voir, parce que plein de gens commencent à se dire mais c'est pas normal que Strange il lance des sorts comme ça. Strange c'est 40 ans de comics où le mec, dès qu'il a un sort un peu puissant, il le teste, il s'en bat les couilles de ce qui se passe à côté.
Ouais, il a un petit côté Tony Stark un peu enfoiraté, oui. qui parfois fait un peu, n'en fait qu'à sa tête. On l'a vu déjà dans son film, hein, le premier, où il fait mumuse avec des sorts auxquels normalement il a pas accès, et ça risque à un moment de tourner très très mal, quoi. Ouais.
Bah c'est un mec très très arrogant, qui veut quand même voir jusqu'où il peut aller, l'étendue de ses pouvoirs, jusqu'où ça peut aller, etc. Oui, il maîtrise pas tout le temps. Voilà, donc ça étant dit, moi pour ce qui est du trailer, ça confirme non. Je serais le premier à faire un mea culpa si le film est bien et il me plaît, hein, y a pas de souci, s'il faut il est très très bien. En tout cas, ce que je vois dans le trailer, ça va dans le sens de ce que je disais le mois dernier, où ça surfe sur un concept qui a été introduit dans d'autres produits Marvel pour faire une tambouille Sony dégueulasse de fanservice qui m'intéresse absolument pas, en fait. Et en plus de ça, il y a un côté com qui a été géré n'importe comment, parce que ce qui
Sony.
D'habitude, je suis vraiment le premier à taper dessus. Là, pour le coup, c'est tellement gros, je suis désolé que Marvel Studios, ils ont quand même aussi des billes dans le truc. Hein. Le coup de Molina qui a balancé à tout le monde qui serait de retour en Docteur Octopus pour qu'on le voit dans le trailer. Typiquement, ça, c'est le genre de truc où il faut contrôler tes acteurs et leur dire le dites pas, ça. Le dites pas, quoi. C'est...
Moi, je pense... Bon, alors, juste pour préciser un truc, la partie communication, en fait, marketing, est intégralement gérée par Sony. Donc, Marvel Studios a absolument pas son mot à dire. Après, effectivement, je suis sûr qu'ils les conseillent. Maintenant, ce dont tu parles là, moi, je suis de plus en plus convaincu que cette fameuse bourde de Molina lors d'une interview était complètement sincère, et c'est juste le signe que, bah oui, on n'a pas exactement le même service de marketing que quand on a les films traditionnels Marvel Studios, c'est le service marketing de Sony, et clairement on parle quand même des gens qui ont sorti le trailer de Far From Home avant la sortie d'Endgame, et qui ont donc complètement spoilé, pour les gens qui suivent pas le truc de très près, le retour de Spider-Man. Donc enfin, il y a un moment, si tu veux, moi j'en attends plus grand chose de leur service com, donc je me braquerai pas trop là-dessus. Et puis derrière, juste pour terminer là-dessus, s'ils font leur Spider-Verse dans leur coin, c'est très bien, et ça fera plaisir à plein de gens, et ça m'empêchera pas de pas regarder pour autant. Donc si encore une fois on se dirige vers un multivers avec Tobey Maguire, Andrew Garfield et compagnie, autant que ça serve dans ce cas-là à quelque chose de narrativement intéressant. Et si c'est la sortie de Spider-Man du MCU, pour moi c'est vraiment une bonne idée. Maintenant, effectivement, je reste très sceptique sur la réussite du truc. J'ai tendance parfois à m'emballer et à avoir des idées qui dépassent parfois ce qui se produit dans les films, je me dis que voilà, peut-être que je vais être déçu au final, mais pour le moment, en tout cas, le trailer me rassure dans cette direction prise, et on verra si ça se confirme, quoi.
Mais ce qu'il y a, c'est que justement, enfin, pour moi, encore une fois, en tout cas, narrativement parlant, c'est pas intéressant. Une accroche à la One More Day pour finir sur un espèce de ping-pong multiverse pour faire revenir des persos qui viennent d'autres films. Je trouve pas ça intéressant. Je trouve ça mal amené et pas intéressant. Donc il y a déjà ça, et donc la com, on en parlait. C'est vrai que oui, c'est Sony qui la gère, mais quand tu disais la bourde qu'ils ont fait avec Endgame, Marvel Studios, ils ont quand même du fric dedans. Il y a un moment, faut aussi leur dire, bon les gars, c'est sympa ce que vous faites, mais on peut vous conseiller si vous voulez. C'est pour ça que je les tiens un peu fautifs pour le truc aussi. Et après, en dehors de ça, j'ai rien vu d'intéressant dans le trailer, quoi. C'est
d'accord, ok.
L'espèce de la boîte de McGuffin, on parlera peut-être plus tard.
On verra ce que c'est. On peut en parler maintenant, en fait, parce qu'on n'a pas grand-chose à dire dessus. En gros, il y a une boîte, à un moment, effectivement, qui ressemble un peu à la boîte qu'utilisaient les Asgardiens pour enfermer la Space Stone, enfin le Tesseract à l'époque, mais. Voilà, ça n'a pas d'autre importance pour le moment, si ce n'est qu'il y aura effectivement un MacGuffin dans le film, grande surprise. Mais j'entends bien tes remarques sur le trailer, et il est évident qu'à partir du moment où le concept de faire revenir ses anciens personnages, etc., te semble inutile, ouais, clairement, tu risques de pas trouver ton compte. Maintenant, encore une fois, je reste aussi... On est dans une phase que je qualifierais d'imaginative, où on a eu un trailer, et donc on commence à supputer ce que ça veut veut dire, qu'est-ce que ça va donner, comment ça va être narré à l'écran. Et donc forcément, il y a des trous en fait. Moi aussi, j'attends de voir comment ils vont amener le retour de ces personnages, parce que oui, ça fonctionne bien dans le trailer quand on entend la voix de Willem Dafoe, et puis juste après, on voit arriver Octopus. Clairement, ça fonctionne, mais maintenant, dans le film, comment ça va être amené? Est-ce que ça va être amené de manière un petit peu forcée? Dans ce cas-là, ça va me faire chier. Est-ce qu'en revanche, il va y avoir une vraie idée derrière qui va être autre que juste faire se battre des Spider-Man contre leurs adversaires qui viennent de tous les films? Il faut aller au-delà de ça, en fait. Et je pense qu'il y a effectivement quelque chose d'autre en plus qui va faire que ça va prendre de la saveur, mais s'il n'y a pas ça, effectivement, ça risque d'être un petit peu décevant.
Après, c'est qu'un premier teaser trailer, hein, donc...
Oui, mais là, moi, je parlais déjà du film, en fait, donc...
Oui, je sais, mais ouais. On brode sur le premier teaser, donc faut qu'on voit peut-être qu'ils vont montrer un peu plus du découpage.
Mais même si, comme je disais tout à l'heure, si le film est bon, je serai le premier à faire un mea culpa. C'est juste pour l'instant, il n'y a rien qui me paraît sexy.
Oui, tout à fait.
Et juste pour conclure un peu là-dessus, c'est aussi le fait que, donc c'est le troisième volet de la trilogie Spider-Man dans la MCU. On a eu deux bons films juste avant. Mais si on a une conclusion comme celle que je pense voir venir, qui est du pur fanservice en surfant sur des trucs intégrés dans le MCU par d'autres produits, ça voudrait dire que la trilogie Spider-Man, au final, elle a apporté que dalle, à part deux films divertissants, et peut-être un troisième en pur fanservice, quoi.
Ouais, ça, je pense qu'en revanche, t'as raison et qu'il faut en faire son deuil, hein. Je pense que depuis un moment, déjà, je sens bien que le personnage de Spider-Man est sur vers la sortie, enfin, est poussé vers la sortie. C'est un personnage qui a finalement eu une importance très très mineure dans Civil War, alors que dans les comics, il était beaucoup plus central. Bon, c'est pas un reproche que je fais au film. Au final, le film s'en tire très bien, mais effectivement, on s'est demandé un peu à l'époque, déjà, si c'était pas purement par fan service de faire revenir Spider-Man, d'autant plus que son impact était finalement très limité. Alors après, il a servi quand même, malgré tout, narrativement, je trouve, en termes de relationnel avec Tony Stark, et notamment le fait que Tony Stark a eu ce rôle un petit peu de mentor vis-à-vis du personnage, qui a été intéressant pour creuser le personnage de Tony Stark aussi. Donc il y a eu un intérêt indirect, en fait, je vais dire, à l'arrivée de Spider-Man dans le MCU. Oui, mais c'est vrai que sinon, si t'enlèves les films de Spider-Man, mais bon, c'est la même chose pour Ant-Man, qui est finalement très très mineur, même s'il a introduit des concepts qui ont été utilisés, il n'était pas absolument indispensable, et quand tu regardes les films, ils n'ont pas vraiment un rôle majeur non plus dans l'histoire du MCU, donc je comprends, et en même temps, pour moi, c'est pas vraiment une surprise, tu vois. Et quelque part,
les films d'Ant-Man n'ont pas un rôle majeur, mais ils introduisent quand même le Quantum Realm qui est
oui,
très
ce que je dis, ils introduisent des concepts, ouais. Mais
c'est là où je voulais en venir, c'est que, en fait, la trilogie Spider-Man prend aux autres films du MCU sans apporter d'autres choses, à part, comme tu le disais, le relationnel Iron Man, Spider-Man.
Mais bon. Reste à voir dans quelle mesure le multivers va être concrètement introduit dans le MCU par le biais de Spider-Man No Way Home, ou si ce sera juste un artifice. Si ça sert vraiment à jeter les bases plus qu'on ne l'attendait, en fait, pour Doctor Strange 2 notamment, et puis pour la suite, l'arrivée de Kang, etc., ça peut du coup être un film avec un potentiel intéressant, en tout cas dans la grande trame du MCU.
Le seul truc positif que je vois, en fait, c'est vrai, quand ils ont fait les séries Disney+, ils ont commencé à dire c'est du bonus pour ceux qui veulent suivre en plus. C'est lié au cinéma, mais c'est pas indispensable à voir. Et du coup, maintenant qu'on a Shang-Chi qui va arriver, Eternals aussi avant, il fallait un truc pour les personnes non Disney+, pour introduire le multivers. Donc il y a la limite ça, avant Doctor Strange, je parle.
Ouais, tout à fait.
C'est le seul point positif que je vois à l'utilisation qui semble en faire dans le trailer, là. C'est le seul truc que je sauve.
Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour, à moins que vous voyez encore des éléments dont j'ai pas parlé, mais pour le reste, voilà, on a fait le tour du concept annoncé par donc ce Spider-Man No Way Home, et le fait que ça suscite quelques craintes tout à fait légitimes, même si moi j'ai quand même maté le trailer plusieurs fois et je suis bien chaud bouillant là pour voir comment ils vont traiter ça, en espérant que les trous de la bande-annonce que mon imagination remplit évidemment ne soient pas finalement un petit peu trop optimiste, on verra. Autre chose à rajouter sur le sujet, les gars, ou sinon on peut passer au courrier.
On en a pas parlé, mais le putain de mug de Doctor Strange, pile au moment,
ah oui, vrai,
avec le For Fox Sake, et tu le vois, et je te jure, je me suis senti attaqué dans le trailer. Il me regarde, en fait, il y a quelqu'un chez Disney qui nous regarde, qui nous écoute, et qui se fout de ma gueule.
Bon, allez, je pense qu'on a fait le tour, on va passer à la rubrique courrier.
Excuse me, Mr. Stark. Christine Everhart, Vanity Fair Magazine. Can I ask you a couple of questions?
Hi.
Hi.
Yeah.
It's okay?
Okay, go.
Et c'est l'heure du courrier des auditeurs. On va répondre en vitesse à quelques-unes de vos questions. On a eu pas mal de questions qui portaient sur le trailer, évidemment, de Spider-Man, le trailer d'Eternals, etc. Donc, on espère avoir traité tout ça dans la rubrique Theory Crafting. On a néanmoins encore quelques questions supplémentaires. Une qui nous vient de Pascal Leblanc, qui nous demande « Pensez-vous que les What If sont aussi une façon de tester ce qui pourrait fonctionner en live action ?» Par exemple, Captain Carter. Tout à fait. Mmh. Je pense que c'est un peu la même fonction que les One Shots. Ça leur permet d'expérimenter de nouvelles approches narrative, d'expérimenter de nouveaux concepts et puis de voir ce qui marche. Et puis à partir du moment où ils ont ouvert le multivers, de toute façon tout est possible. Ils peuvent se permettre très facilement de faire arriver un Captain Carter dans le MCU ciné sans aucun problème, enfin sans que ça demande des contorsions particulières. Donc je pense qu'effectivement ça peut servir, je pense que ça ne sert pas qu'à ça, mais ça peut servir en tout cas en partie à stimuler un peu ce qui se passe côté live action, comme on dit.
Tu vois, ce matin j'étais d'accord, j'ai vu l'épisode 3, je ne suis absolument plus.
Écoute, on verra.
Regarde-le.
Non, mais c'est dans ta semaine chaque fois. C'est que parfois parfois c'est miss. Voilà.
C'est vrai que je suis en rente 2000% cette semaine.
C'est la semaine du chafouin, le pauvre.
C'est vrai que les deux premiers, ça faisait vraiment de l'expérimental. C'est vrai, ça allait dans ce sens-là. Mm. Le troisième, moi, c'est un arrière-goût de, vas-y, on tue lui comme ça, et lui comme ça, vas-y, on fait au pif, et pif, bam, poum.
Ah, c'est pas au pif. Faudrait que tu le regardes confortablement installé dans ton canapé, avec autre chose que de l'eau plate et une banane, ouais. Ça sera mieux.
Allez, on passe à la question suivante qui nous vient d'Agent Dagui, qui nous demande, après l'analyse de la bande-annonce de ce Spidey, pensez-vous que Sony, qui a toujours déclamé que Venom et Morbus sont dans le MCU, ont peut-être un peu raison? C'est pas une question d'avoir raison ou d'avoir tort, c'est une question de choix. Encore une fois, on en a déjà parlé le mois dernier, donc on va pas s'étendre sur le sujet, mais à partir du moment où on va ouvrir vers un Spider-Verse potentiel, bah, ça sera à nous de choisir ce qu'on considère comme canon ou pas. Et puis,
c'est vrai qu'on avait décidé. On avait dit on décide.
Voilà. Ah ouais. Chez nous qu'on décide.
Question de Philippe ou Philippe qui nous demande, l'arrivée d'Adam Warlock qui avait été annoncée dans les Gardiens de la Galaxie 2 est-elle toujours d'actualité? Il y en a un qui tremble parce qu'il va falloir faire le focus. C'est difficile, en tant qu'on n'aura pas d'infos sur Guardians 3, ce sera difficile d'en parler. Peut-être que c'était juste une porte ouverte au cas où, et puis peut-être que depuis James Gunn a revu sa copie, a décidé de pas utiliser le personnage.
Non, il me semble avoir vu passer un tweet où il disait qu'il fallait juste trouver le moyen de l'introduire, mais qu'il s'était encore me cotez pas là-dessus, j'ai pas le tweet de source, déjà c'est vraiment ma mémoire là. Mais il me semble avoir vu passer un tweet où il disait si faut juste que je trouve le moyen de l'utiliser.
Ok,
en gros.
Bah donc voilà, tu as la réponse
possible,
à ta question.
Merci James.
Et puis dernière question d'Arnaud Clopeau qui nous demande, pensez-vous que des acteurs ou des éléments ont été modifiés pour la réalisation du trailer? Il parle bien sûr de Spider-Man No Way Home, comme on avait pu le voir dans Infinity War par exemple avec Hulk, si oui lesquels? Bon, il y a déjà plein de manipulations au niveau du montage qui sont assez évidentes, on pense notamment à l'arrivée de Dr. Octopus quand il dit salut Peter et qu'on a un plan de coupe sur le Spider-Man actuel qu'on connaît, donc Tom Holland. Je pense que dans le film ça ne sera pas lui. Il y a plein d'autres possibilités effectivement de retouches, de personnages qui ont été effacés, de personnages qui ont été rajoutés, de lignes de dialogue qui ne se trouveront pas dans le film. Donc oui, c'est comme pour tous les trailers Marvel Studios, c'est à prendre avec de grandes pincettes. On en est plus en fait à faire de l'analyse de qu'est-ce qu'ils ont bien voulu essayer de nous faire croire par le trailer que d'essayer de savoir ce que va être le film concrètement. Donc ça n'a pas beaucoup changé et ce sera effectivement encore le cas avec les prochains trailers aussi, je pense. On a fait le tour du courrier, on peut passer au Quantum Trip.
Are you talking about a time machine?
No, of course not. No, not a time machine. This is more like a time machine.
Quantum Trip, c'est notre rubrique flashback sur un ancien épisode où on se moque en général de nos prévisions foireuses. On fait un retour rapide sur l'épisode 21 où on parlait de la série Agent Carter. On parlait aussi de Dark Force et de Zero Matter, vous vous souvenez? Mm-hmm. On parlait aussi de potentielles connexions avec Doctor Strange, pour qui on anticipait d'ailleurs déjà l'arrivée du multivers. Et puis je ne résiste pas non plus au plaisir de vous glisser à la fin une petite spéculation sur des films potentiels de la phase 3. Et c'est juste pour vous rappeler qu'à l'époque, il y avait encore des titres non annoncés, oui, mais il y avait surtout encore à l'affiche un certain Inhumans. Avengers, c'est pas l'heure, c'est l'heure de notre petite partie Theory Crafting dans laquelle on spécule allègrement sur le futur du MCU et bon, en général on se plante pas mal, mais c'est rigolo. Parfois on voit juste et dans ces moments-là on est assez satisfait de nous-mêmes.
Ce portail, le Dr. Wilkes en parle rapidement, Il s'est retrouvé dans un monde qui dévore tout, dans un monde où il n'y a que la nuit, la noirceur, mais c'était un monde qui a été dévoré par la Dark Force et la Zero Matter, quoi.
Alors que dans Agents of S.H.I.E.L.D. ils sont téléportés dans un autre endroit en fait, donc on peut supposer qu'il y a
qu'il y a plusieurs espèces de mondes, de dimensions parallèles, et que c'est ce qui va être utilisé dans Doctor Strange, qui va lui peut-être pour le coup partir encore sur une autre dimension et d'autres univers. En tout cas, bon voilà, donc connexion avec Doctor Strange au niveau de cette Zero Matter, en tout cas c'est comme ça qu'on l'appelle pour le moment, et qui est évidemment une équivalence de la Dark Force dans les comics. On aura peut-être l'occasion de vous en reparler quand on fera un focus sur Doctor Strange, justement ça viendra d'ici la sortie du film à la fin de l'année. On a quand même une phase 3 qui est assez conséquente et qui se termine a priori en mai 2019 avec la deuxième partie d'Infinity War, et puis bon, il y aura les Inhumans après en espèce d'épilogue un peu à la manière d'Ant-Man dans la phase 2, voilà. Et puis on a 3 films. Alors est-ce que ce sont 3 films d'une phase 3 en plus, est-ce que ce sont 3 films qui vont venir s'intégrer dans une phase 4 déjà. On a même carrément parlé d'un Avengers Infinity War par 3 qui n'aurait pas encore été annoncé, qui aurait été décidé finalement en dernière minute et qui serait donc le film de mai 2020. Je sais pas si toi t'as des idées, on parle aussi de Hulk, du retour de Hulk, qu'ils vont finalement réussir à s'entendre avec Universal pour faire un film.
Eh ben.
Alors moi ce que je retiens surtout, c'est que pour nous à l'époque, Inhuman c'est un peu comme Ant-Man en fait. C'est le petit épilogue en fin de phase.
Ça a été le cas pour le coup.
C'est devenu finalement. Je sais plus quand c'est sorti, si c'est sorti en fin de phase ou pas.
Ant-Man and the Wasp est sorti après. Ant-Man and the Wasp est sorti juste après Infinity War.
Oui, mais on là à l'époque on parlait d'Inhumans, oui. Qui était supposé être le film qui allait sortir après Infinity War partout, donc qui est devenu Endgame par la suite et qui, comme on le sait, a été relégué en série télé. budget est catastrophique. voilà. Et puis sinon, nous, on attendait déjà du multivers dans Doctor Strange 1. On a été un peu. Je me souviens pas d'avoir été déçu par rapport à ça finalement, mais c'est vrai qu'on en avait parlé un moment. Et puis les connexions, évidemment, avec Agent Carter, c'était encore l'époque où on était à fond dans les interactions entre séries télé et ciné. On était jeunes, on était innocents.
It wasn't connected.
Voilà. Donc voilà, c'était le petit retour dans le passé. On y retournera le mois prochain avec un nouvel épisode. Donc ce sera l'épisode 22 qu'on revisitera pour l'occasion. Et c'est la fin de ce 81e épisode des Clairvoyants. On espère qu'on vous en aura appris un peu plus, en tout cas suffisamment sur Shang-Chi pour aller voir le film en toute connaissance de cause. On espère que nos avis sur les trailers qui sont sortis vous auront éclairé. Si vous avez envie d'en parler avec nous, n'hésitez pas. Il y a le forum geekzone.fr, sinon il y a le Discord aussi sur lequel vous pouvez venir discuter avec nous. Vous pouvez nous alpaguer aussi sur Twitter, même si on est souvent moins réactif sur ce médium-là. Venez plutôt nous parler sur Discord en général. C'est ce qui fonctionne le mieux. On vous rappelle l'existence aussi des dossiers Marvel Studios sur le site geekzone.fr. On vous rappelle l'existence du Patreon. Si vous voulez nous soutenir à écrire justement ces dossiers ou à produire des podcasts, vous pouvez le faire sur patreon.com/geekzonefr. Et en échange, on vous file des petits cadeaux de temps en temps, comme la pause comics. Un nouvel épisode d'ailleurs devrait sortir d'ici la fin de la semaine. Nouvel épisode donc dans lequel Thomas nous présente des recommandations comics un peu dans toutes les maisons d'édition, pas uniquement Marvel. Donc ça, c'est un podcast qui est réservé aux abonnés Patreon. Je peux vous rappeler aussi la sortie donc du tome 2 de mon bouquin sur les coulisses du Marvel Cinematic Universe, et puis je crois qu'on a fait le tour. Le mois prochain on fera probablement un focus sur les Eternals, et on réservera un focus aux Celestials et aux Deviants le mois suivant. Ça permettra de découper et d'alléger un peu le travail. N'hésitez pas, si vous avez des questions à nous poser, faites-le, on les note et puis on en reparle dans le courrier du prochain épisode. Merci les gars pour votre participation.
Merci à toi, merci à vous de nous avoir écoutés.
Merci à vous deux, merci à tous aussi de nous écouter. Ouais.
Et puis on vous retrouve le mois prochain pour reparler donc du Marvel Cinematic Universe. Ciao les gars,
des bisous.
Podcast signé Faskill. Faskill.com.
Torréfaction, c'est votre rendez-vous hebdomadaire sur geekzone.fr avec une sélection de l'actualité proposée par Caféine et Fastkill. Gaming, culture, software et tech ont fait le tri dans les news de la semaine pour vous proposer un récap digeste d'une demi-heure, histoire de ne rien louper des infos essentielles. Torréfaction, c'est votre rendez-vous avec l'actu geek tous les vendredis matin à 8h sur geekzone.fr.